Actu.
Elle.
Et lui.
Actu.
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 Elle.
Et lui.
Elle.
Lui.
Elle.
Lui. D'actuel.
Et lui.
Et bonjour à tous, bienvenue en direct. Nous sommes un petit peu en retard puisqu'il y avait une chanson qui était un petit peu plus longue. Il est 12h33 tout juste et vous êtes avec nous en direct pour ce sixième numéro d'Actuel et lui.
Déjà.
Voilà, vous nous retrouvez tous les 15 jours pour cette émission sympathique, voilà, où on parle d'actualité ou de choses un petit peu plus vieilles, voilà. Aujourd'hui au programme, on va d'abord commencer avec Aurélie. De quoi vas-tu nous parler ?
Bonjour Guillaume, je vais vous parler de Pâques, des œufs et du chocolat.
Oui, bon, on est un peu en retard là quand même. Hein.
Oui, mais non, on est en plein dedans parce que tous les chocolats qu'on a reçus à Pâques, on est en train de les manger.
T'as peut-être pas fini de manger tous tes chocolats, Guillaume.
Mais non, j'en ai pas eu.
Oh, le pauvre malheureux.
Ouais, c'est triste. Bon.
Tu fais ton Calimero.
C'est ça.
Oh, oui.
On en reparle dans son œuf en plus, en chocolat.
Voilà,
voilà.
Et toi, Guillaume, tu vas nous parler de quoi ?
Alors, moi, je vais vous parler d'un bouquin qui s'appelle La France vue du sol. Et puis, on fera aussi un écho avec justement les départements aussi vus dans la désencyclopédie. Voilà, une espèce de Wikipédia parodique. Et toi, Anne-Marie ?
Eh bien, bonjour. Et moi, je vais parler sport, des sports tendances. Donc, je vais vous faire transpirer.
Voilà, tout ça après avoir mangé un petit
gâteau au chocolat.
Muffin au
chocolat. Voilà. C'est de la délation.
Oui, mais justement, comme Aurélie parlait chocolat, je me suis dit, il faut que j'y fasse honneur. Voilà, j'ai mangé un muffin au chocolat. Voilà.
D'accord, c'était pour te mettre dans l'ambiance.
Exactement.
Ah, quel professionnalisme.
Je sais.
Bien, on attaque avec le chocolat, hein.
Oui.
C'est plutôt sympa. Hein.
Alors quand on a cherché nos sujets de chronique avec Anne-Marie, on s'est comme toujours demandé de quoi est-ce qu'on allait bien pouvoir vous parler. Et justement, c'est ce que je te disais, en ce moment nous baignons dans une douce félicité chocolatée et donc je vais vous parler d'œufs en chocolat. On est juste après Pâques, c'est donc le moment de manger du chocolat. Bon, en même temps, il faut aussi reconnaître que comme à peu près 49% des Français, le chocolat fait partie de notre consommation régulière. Et même, on pourrait dire qu'à nous deux, on fait un peu augmenter la moyenne parce que
à nous trois.
Ah, tu vois, finalement.
J'en ai pas eu pour Pâques, mais
Mais sinon, ça n'empêche pas. Donc voilà, le chocolat, effectivement, c'est toute l'année. Il n'y a pas de raison de s'en passer. Mais on observe quand même un pic dans la consommation à deux grands moments de l'année, Noël et Pâques. Parce que si ces deux fêtes riment avec jour de congé, elles riment aussi avec bien manger, déguster. Bref, surtout du chocolat.
Alors, ce qui est bien avec ces deux fêtes, c'est qu'en fait, on a beaucoup de chocolat à Noël qui dure jusqu'à Pâques.
Voilà.
Et ensuite, on a des chocolats à Pâques qui durent jusqu'à Noël.
Oui, alors là.
Enfin, pas trop.
Il y a quand même l'été, il fait chaud, ça
voilà, faut les manger avant.
Par contre, tu disais, Aurélie, donc il y a 49% des Français, ça veut dire que les autres, ils n'en mangent pas régulièrement.
Ils n'en mangent pas régulièrement, mais ils en mangent quand même.
Ah, oui, alors mangent. On en fait partie.
On fait partie des 49%,
mais t'en manges souvent
en moyenne 1,6 fois par semaine, c'est pas beaucoup.
Ah oui.
Moi, c'est pas toutes les semaines. Hein.
Ah ouais, tu manges pas un gâteau au chocolat
Pas toutes les semaines. Hein.
Oh. Ouais, c'est ça.
Pop, pop, pop.
Comment je te crois pas. Bon, et ben moi, j'avoue, j'en mange plus de 1,6 fois par semaine. Voilà.
C'est précis en plus.
C'est dit.
La révélation est faite.
Ça, c'est fait.
C'est par jour.
Bon, alors, pourquoi on mange des œufs en chocolat pour Pâques et on n'en mange pas partout dans le monde
Alors, effectivement, on mange des œufs pour Pâques. Enfin, des œufs au chocolat, l'œuf de Pâques. C'est parce que l'œuf de Pâques est un symbole.
Une bonne omelette de Pâques.
Tout le monde connaît.
Un œuf brouillé, allez hop, faisons-nous plaisir. C'est Pâques.
Dans le jardin. Bon, je vous arrête tout de suite. On mange des œufs au chocolat, certes, mais effectivement, l'œuf, d'une manière générale, est un symbole chrétien qui est utilisé souvent à Pâques. On retrouve des œufs durs dans de nombreuses recettes pour Pâques, puisqu'effectivement, ce symbole, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est la renaissance. Voilà, le petit poussin qui sort de l'œuf. Il y a là, effectivement, l'idée du renouveau. Donc, à l'origine, il s'agissait effectivement d'un œuf de poule cuit et coloré. Alors aujourd'hui, ils sont souvent en chocolat ou en sucre. Mais si ce symbole est souvent utilisé en France ou en Belgique, c'est le cadeau un peu traditionnel du dimanche de Pâques. En Suisse, en Angleterre ou aux États-Unis, en fait, le symbole de Pâques, c'est un lièvre. Donc vous voyez.
D'où les lapins en chocolat.
D'où les lapins en chocolat, tout à fait. Alors.
Et c'est une tradition qui est ancienne.
Voilà, c'est une tradition effectivement qui est assez ancienne. En Alsace, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, dans la plupart des Länder, en fait, les œufs de Pâques sont apportés par un lièvre, le lièvre de Pâques.
Alors que nous, c'est les cloches qui jettent les œufs, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Alors pourquoi est-ce que c'est le lièvre ? Parce que ce petit animal, vous savez qu'il est très prolifique, c'est au printemps, et donc il y a beaucoup de bébés lapins. Du coup, c'est un symbole de fécondité qui est très, très ancien, sans doute antérieur au christianisme. Mais on trouve d'autres animaux, en fait. En Bavière, le lièvre est remplacé par un coq. En Thuringe, c'est un renard. Dans la région de Hanovre, c'est un coucou. Au Tyrol, c'est une poule. Bon, là, on se rapproche un petit peu. Et en Westphalie, c'est un renard. Alors, ne me demandez pas, je vous vois venir. Pourquoi est-ce qu'on a le renard qui mange la poule, etc. Parce que non, moi, je ne sais pas. Donc, chez les catholiques, par contre...
Je trouve que ça manque d'exemples visibles dans le studio. Mais enfin...
Oui, effectivement, on n'a pas mangé de cloche en chocolat, ni, de, ni d'œufs aujourd'hui.
Oui, c'est vrai que tu aurais pu faire un petit effort, Aurélie.
Oui, c'est vrai, j'aurais pu. Mais je ne veux pas partager mes œufs de Pâques avec vous.
Ça garde. C'est dit, voilà.
Je les garde sympa. Pour moi. Vous, il faut pour... que je maintienne ma réputation d'une virgule six fois minimum par semaine. Okay. Donc voilà. Vous, toi, tu as dit tout à l'heure que moi, une fois par semaine.
Ah bah dis donc le partage, hein.
Non.
C'est
non.
Une qualité.
Non. Donc chez les catholiques, justement, les cloches cessent de sonner à partir de la messe du jeudi qui précède Pâques, dit jeudi saint, en signe de deuil pour la mort du Christ. Et on les réentend à la fin de la veillée de Pâques, donc qui précède le jour de Pâques proprement dit. Et la tradition donc prétend que les cloches ne sonnent plus car elles sont parties à Rome. Elles reviennent dans la nuit chargées d'œufs en chocolat qu'elles déversent dans les jardins. Et le lendemain, on peut donc aller chercher dans son jardin les sucreries qui y sont dissimulées.
Alors, puisqu'on a des lapins, des coqs, des renards, pourquoi la forme d'un œuf ?
Alors, c'est ce dont j'ai commencé à parler tout à l'heure. Effectivement, l'œuf est un symbole mythologique qu'on retrouve présent dans de nombreux récits de création, dans plusieurs cultures et civilisations. Par exemple, dans la tradition finlandaise, le monde est né d'un œuf. Dans la religion celtique, on offrait des œufs peints à la déesse Éostre, ce qui on retrouve son nom en fait dans le mot Pâques en anglais, Esther, dans les pays anglo-saxons. Le judaïsme le voit également comme un symbole du cycle de la vie. Et encore de nos jours, d'ailleurs, l'œuf dur, voilà, dont je parlais tout à l'heure, fait partie du repas de deuil, ainsi que du céder de la Pâque juive. Dans le christianisme, il symbolise la résurrection de Jésus-Christ et sa sortie du tombeau comme l'œuf, comme le poussin qui sort de l'œuf. Voilà. La tradition donc d'offrir des œufs au printemps remonte en fait à l'Antiquité. Les Perses, les Égyptiens s'offraient en guise de porte-bonheur des œufs de poule décorés. Donc c'est vraiment,
c'était plutôt sympa. Ouais,
c'est sympa, on pourrait aller chez les gens avec une bonne douzaine d'œufs.
Voilà, voilà. Et effectivement, c'est une tradition assez ancienne puisque on a retrouvé en fait des œufs d'autruche décorés datant de 60 000 ans en Afrique australe, ou des œufs d'autruche peints avec des motifs géométriques, animaliers ou végétaux dans les tombes de Sumer ou de l'Égypte antique.
Et des œufs d'autruche en chocolat, c'est pour les super gourmands parce que vu la taille, ça.
Oui, alors malheureusement, ils n'étaient pas encore en chocolat, mais voilà, il faudrait lancer l'idée de l'œuf d'autruche en chocolat. Donc en fait, dès la Renaissance, avant qu'on ait donc du chocolat, l'usage était d'offrir des œufs précieux en fait dans les cours royales, évidemment chez les gens riches. Donc Édouard Ier d'Angleterre faisait décorer des œufs à la feuille d'or pour les distribuer à sa famille. Louis XIV faisait bénir de grandes corbeilles d'œufs dorés qu'il remettait donc en cadeau à ses courtisans ou aux domestiques. À l'époque de Louis XV, on sait que sa fille a reçu en cadeau des œufs peints par Watteau et Lancret, donc des œufs artistiques. Alors un autre artiste très célèbre pour ses œufs, donc c'est à la cour impériale de Russie à la fin du 19e siècle, donc Nicolas II offrait pour Pâques à son épouse et à sa maman des œufs de Fabergé, donc des pièces d'orfèvrerie d'or. Vraiment, c'est très beau, les œufs de Fabergé en or et en pierres précieuses, qui sont vraiment des chefs-d'œuvre de l'art de ce joaillier.
Et comment on fait pour passer de ces œufs donc peints qu'on ne pouvait pas manger aux œufs au chocolat?
Et ben en fait, c'est assez récent parce que jusqu'au 19e siècle, les œufs étaient naturels, décorés par les enfants. D'ailleurs, quelques petits trucs si vous voulez essayer, parce qu'après tout, on peut percer les œufs, utiliser les coquilles et puis, et puis donc les remplir de chocolat ou pas, et puis les peindre. Donc on peut les teindre.
C'est les ateliers pour la semaine prochaine, voilà. Pour les vacances.
Exactement.
Pour les... Moi, j'en faisais quand j'étais en primaire.
Oui, mais il n'y a pas de raison.
Maternelle, primaire. Oui,
c'est très facile, c'est très économique. Et du coup, on peut passer une après-midi rigolote à découvrir que, par exemple, les rouelles d'oignons cuites peuvent teindre en rouge, de même que la racine de prunier ou de bois de campêche.
On ah, peut teindre... Tu ne fais pas la peinture.
Ah ben non, c'est pas rigolo, il faut le faire avec des produits naturels, sinon c'est
tu
nul.
Tu fais quoi cet après-midi, Guillaume?
Ben voilà. Donc, allez chercher du bois du Brésil, de la betterave ou des violettes pour teindre en violet. En rose pâle avec des épluchures de radis. En vert avec des feuilles d'ortie ou du lierre, et en brun avec de la chicorée. Et alors, petit détail, justement, si Guillaume, tu veux des très beaux œufs, tu obtiens des œufs chamarrés en les faisant cuire avec une mousseline contenant des herbes et des fleurs. Et alors là, tac, ça devient tout de suite beaucoup plus artistique.
Tu nous fais ça pendant 15 jours?
Voilà.
Ouais, non, chiche. Là, non, pas chiche, parce que c'est trop c'est minutieux, scientifique. C'est minutieux. C'est trop
ah
minutieux.
Ben non, tu mets tes rouelles d'oignons dans l'eau et hop, on y va.
Donc on a des œufs, mais on a aussi des poules.
Et oui, la cocotte en chocolat quand même. Effectivement, à l'œuf est associée la poule qu'on trouve maintenant sous forme de ces statuettes, des petites statuettes en chocolat. Donc les confiseries ne sont plus limitées formellement à la forme de l'œuf, mais peuvent parfois donner lieu à de véritables sculptures en chocolat et en sucre, et représentent des personnages, des objets qui n'ont parfois plus aucun lien en fait avec le modèle d'origine, des tortues, des canards, on trouve à peu près tout ce qu'on veut quoi.
Et tout ça, c'est du chocolat. Enfin, t'as parlé du sucre aussi, mais...
Oui, alors, désormais, ouf, j'en arrive au chocolat, je vais pouvoir vous en parler un petit peu. Donc, le chocolat, c'est le nom.
Non, c'est pas grave, il y a quelqu'un qui nous appelle.
Voilà, quelqu'un nous téléphone pour se plaindre.
Il veut du chocolat, peut-être.
Le chocolat arrive, ne vous inquiétez pas. Donc, le chocolat je vais y arriver. Ça me perturbe du coup. Hein. Le chocolat est un terme d'origine mésoaméricaine. C'est un aliment sucré produit à partir de la fève de cacao. Donc celle-ci est fermentée, torréfiée, broyée jusqu'à former une pâte de cacao liquide dont on extrait la matière grasse appelée beurre de cacao. Le chocolat donc est constitué formellement de ce mélange dans des proportions variables de pâte de cacao, de beurre de cacao et de sucre. Et on peut après y ajouter d'autres choses comme des épices, de la vanille ou des matières grasses végétales.
Et oui, voilà, ça nous a bien perturbé.
Ça a perturbé tout le monde.
Ouais.
On a la cabosse et le cocoyer.
Et le voilà, cacao. Le cacaoyer, c'est l'arbre qui donne le cacao, effectivement, bah oui. À l'origine de tout ça.
De cacao, oui.
Donc c'est originaire des plaines tropicales d'Amérique du Sud et centrale. Donc le cacaoyer produit les fèves de cacao. Il est cultivé depuis 3 millénaires dans cette région et aujourd'hui à peu près l'actuel Mexique, un peu plus au sud. Donc on sait que les Mayas cultivent des cacaoyers et utilisent des fèves de cacao pour fabriquer une boisson chaude, mousseuse, mais donc très amère, hein, puisque pour l'instant, on ne sucre pas. Souvent, aromatisé avec de la vanille, du piment et du roucou. Donc c'est une sorte de plante qui va donner de l'amertume. On a trouvé dans une tombe maya donc du début de la période classique, donc 460-480 avant Jésus-Christ, donc au Guatemala, un récipient en fait dans lequel on a retrouvé le caractère maya, donc l'écriture qui symbolise le cacao et les restes d'une boisson chocolatée à l'intérieur du récipient.
Donc du coup, c'était beaucoup moins calorique que celui qu'on fait maintenant, alors.
Oui, sans doute. C'était aussi visiblement pour les premiers colons pas très bon. En fait, on sait que Christophe Colomb, quand il en reçoit des Amérindiens, en fait, les jette par-dessus bord. Il les aurait pris, en tout cas, c'est ce qu'il raconte, pour des crottes de chèvre. Et Cabosse, il a dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, quand il commence
pourtant, à... C'est vachement plus gros.
Et oui, c'est vachement plus gros, mais bon. Je sais pas, c'était peut-être pas une lumière, malgré le fait qu'il ait découvert l'Amérique. En tout cas, il a jeté par-dessus bord ces drôles de choses qu'on lui apportait, parce qu'évidemment, il ne savait pas ce que c'était.
Puis ça sent pas pareil, en plus.
Et en fait, mais alors, tant qu'elles sont pas torréfiées...
Oui, mais du coup, quand même, la crotte de chef, hein, je suis pas spécialiste, mais ça sent quand même très fort, donc...
Oui, mais le cacao peut... Enfin, s'il est amer, peut aussi être... Oui, peut avoir effectivement non mais c'est
tu crois que ça
ouais je pense ouais.
Bon. Ça en tout cas ça lui a pas plu quoi et donc quand ils ont goûté dans un premier temps cette boisson amère aux épices piquantes en fait ça a pas été trop ça a pas été trop leur tasse de thé, si j'ose dire.
Eh bien oui, puis c'est une boisson chocolatée.
Voilà, et donc ils n'ont pas, ben, pas chocolaté encore, cacao amer justement. Ah, oui.
Et alors, du coup, voilà. Là, on en est au cacao. Et maintenant, comment fait-on pour en arriver au chocolat?
Et ben, c'est exactement ça. En fait, c'est lorsque les religieuses vont commencer à l'édulcorer et à l'aromatiser avec du miel, du sucre de canne, de l'eau de fleur d'oranger, qui commencent à l'apprécier. En fait, à partir du moment où les Espagnols vont conquérir l'Amérique et donc battre les Aztèques, ouais. Ils vont effectivement rapporter à la cour d'Espagne ce cacao. Hermann Cortés, en fait, le rapporte en Europe à partir de 1528. Donc c'est pas très vieux. Et à ce moment-là, en fait, ça va se répandre dans toute l'Europe, donc par les Pays-Bas espagnols d'abord, puisque effectivement c'est un morceau de l'Espagne aux Pays-Bas à ce moment-là. Et puis ensuite, en France, notamment avec les exilés juifs espagnols au XVIe siècle. C'est pour ça qu'on retrouve en fait une grande tradition chocolatière dans le sud-ouest de la France, au Pays Basque, parce que ces exilés, ils savaient faire le chocolat et donc ils ont gardé, par exemple, je pense que vous connaissez les Pyrénéens, donc ces petits chocolats très fondants, oui, bah, c'est des chocolats très particuliers, et ben ils viennent en fait de cette tradition du XVIe siècle, de ce savoir-faire au Pays Basque. Donc durant des siècles, le mode de fabrication du chocolat reste inchangé. Et en fait, c'est seulement quand on s'industrialise au 19e siècle qu'il y a des nouvelles machines et que la population va pouvoir commencer à goûter et à consommer du chocolat partout dans le monde. Donc les manufactures de chocolat vont se multiplier. On passe même ensuite aux chocolateries industrielles en France, en Suisse et aux Pays-Bas. Je suis sûre que vous en connaissez. Vous devez connaître un certain nombre de marques de cacao, de chocolat.
Ah oui, ça on en connaît plein. On n'est pas là pour faire de la pub non plus.
Non, mais même si alors du coup, on va pas faire de la pub, mais je vais vous parler de ces chocolateries industrielles. Par exemple, en 1815, le Hollandais Conrad Johannes van Houten, voilà, une première marque. Le Suisse Philippe Suchard, l'Anglais Cadbury. Donc tout ça au début, premier quart plutôt du 19e siècle, ils produisent les premiers chocolats qui vont être diffusés à grande échelle. La première fabrique en France est fondée près de Perpignan, donc en Languedoc-Roussillon. Et le chocolat va entrer à ce moment-là dans l'ère industrielle. La mécanisation entraîne une baisse des prix et un public de plus en plus large va être conquis. Alors, la grosse fabrique du nord de l'Europe, donc à Amsterdam, c'est Van Houten, qui va vendre ses boîtes de chocolat en poudre dans toute l'Europe. En France, c'est Émile Mercier, avec l'usine de chocolat de Noisiel. Aujourd'hui, c'est
Mercier ou Meunier ?
Meunier, j'ai dit Mercier, Meunier. Meunier, oui, effectivement, les chocolats Meunier, le paquet vert là qu'on connaît, surtout en chocolat à pâtisser, mais qui à l'origine était un chocolatier qui ne faisait pas que du chocolat à pâtisser et qui a donc été racheté par une firme dont je vais parler tout de suite, qui est la firme Nestlé, qui a donc été fondée en 1879 par Daniel Peter, qui s'associe avec Henri Nestlé, qui lui n'était pas un chocolatier à la base, mais l'inventeur du lait concentré. Et donc, on va apporter ce côté lait et sucré au cacao et au chocolat, et du coup ça va être le premier leur spécificité. Et la même année, en 1879, Rodolphe Lindt, lui, va mettre au point une nouvelle technique qui s'appelle le conchage et qui en fait est un procédé d'affinage qui permet de fabriquer des chocolats très fondants. Et il faut savoir que son secret sera pas rendu public avant 1901. Donc, il était le seul, Monsieur Lindt, à ce moment-là, à fabriquer ces chocolats vraiment qu'on peut faire fondre dans la bouche. Pour nous, ça semble tellement de notre quotidien que voilà, c'est assez étonnant de se dire que finalement 1901, c'est récent. Et puis deux ou trois autres noms qui vont vous parler. Donc Jean Tobler, le Suisse, qui va créer une barre triangulaire, le Toblerone, en 1899, et Philippe Suchard qui, lui, commercialise une nouvelle tablette, Milka.
Et là, tu nous donnes faim.
Ouais. Et ouais, hein, voilà.
Mais on voit que finalement, ces marques d'aujourd'hui sont inscrites dans l'histoire, parce que ça fait près de deux siècles que certaines existent. Quoi.
En fait, c'est à chaque fois qu'un de ces industriels crée un nouveau produit qui va vraiment lui laisser son nom, et que pour nous c'est dans le paysage.
Et on n'en crée plus vraiment, c'est vrai que Aujourd'hui, enfin voilà, toutes les
marques. Alors effectivement, les grandes marques sont déjà en place. Ouais, effectivement. Les choses les plus récentes, en fait, ça va être l'américain Mars qui va lancer le Milky Way, donc cette espèce de mousse un peu molle, et le hollandais Nuts qui va avoir l'idée d'ajouter des noisettes en fait dans la barre éponyme, donc du Nuts. La dernière grande innovation, en fait, c'est le chocolat blanc. Il est produit en 1930 en Suisse pour la première fois par Nestlé, et c'était plutôt pour utiliser en fait des surplus de beurre de cacao, donc des sous-produits du chocolat plutôt qu'un nouveau produit.
Et là pour le coup très sucré quand même. Hein.
Très sucré effectivement, pas forcément.
Enfin bon, après ça dépend des goûts, mais moi je sais que je suis pas fan du chocolat blanc. Quoi.
Mais enfin malgré tout là, tu nous parles des grands industriels du chocolat, mais derrière il y a aussi de l'artisanat et des enfin. Et du terroir aussi autour de ça. Enfin,
oui, effectivement.
Des recherches un peu plus... Enfin, où il y a vraiment...
De goût.
Ouais, de goût et de spécificité locale. Je pense que, enfin voilà, en Lozère, on a des chocolatiers, on a d'autres endroits, d'autres chocolatiers qui aussi transforment le cacao à partir de la cabosse. Quoi.
Oui, on va même remonter encore un peu plus. Le cacao, c'est un produit agricole, et comme souvent face un peu à une standardisation du goût, on recherche aujourd'hui une authenticité, des goûts, des terroirs vraiment spécifiques. On parle de cru de chocolat, en fait, comme on peut parler du vin. Voilà,
et on vendange aussi le chocolat.
Ah non, on vendange pas, mais par contre, on va avoir vraiment cette notion de cru avec, alors pour vous donner une petite classification, justement, les chocolats d'origine qui vont être des cacaos provenant d'un seul pays, les chocolats de cru qui vont être une région, voire une plantation unique, donc là vraiment, un endroit très spécifique, et les chocolats grands crus qui caractérisent des chocolats dont le cacao a un caractère vraiment particulier, identifiable de façon unique et qui, bah, évidemment, justifie parfois un prix un peu plus élevé, quoi. Donc, du chocolat à déguster aussi. Donc, mais ça, vous voyez, on pourra en reparler du chocolat.
Oui, et puis on pourra faire des gâteaux, on pourra faire tout ça, c'est pour les prochaines semaines. On va peut-être faire une petite pause musicale, parce que ça fait quand même quelques temps que vous êtes avec nous maintenant. Qu'est-ce que tu nous proposes ?
Alors, j'ai cherché, comme on a déjà écouté La Femme Chocolat qui serait tombée. Je me suis dit, ah non, on peut pas. Voilà, on peut pas. Donc, il me faut une chanteuse avec une voix comme ça, suave, agréable. Donc, j'ai choisi Adèle.
Voilà, et c'est parti.
Daydreamer. Sitting on the sea, soaking up the sun. He is a real lover of making up the past and feeling up his girl like he's never felt a figure before. A jaw dropper. Looks good when he walks, is the subject of their talk. He would be hard to chase, but good to catch, and he could change the world with his hands behind his back. Oh, you can find him sitting on your door. Waiting for a surprise, and he will feel like he's been there for hours, and you can tell that he'll be there for all life. Make him melt. He lends his coat for shelter, plus he's there for you when he shouldn't be. but he stays all the same, waits for you, then sees you through.
Bienvenue dans la deuxième partie de l'émission Actuelle et lui. Donc lui, c'est Guillaume.
Toujours.
Voilà, t'as pas changé.
Non, non. Ah, même si tu m'appelles Aurélien aujourd'hui. Mais...
oui, mais c'est en off.
Voilà. Ah, mais il faut raconter le off, hein, de toute façon.
Oui, on peut compter sur toi. Alors Guillaume, tu nous parles de quoi maintenant?
Eh bien, je vais vous parler de deux choses qui devraient être des choses très sérieuses, un atlas, une encyclopédie, et qui en fait ne le sont pas du tout et qui sont justement totalement détournées et parodiques. Alors il y a du vrai, il y a du faux, il y a des traits qui sont un petit peu poussés, mais voilà. Alors les deux choses dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le livre qui s'appelle « La France vue du sol », avec comme sous-titre « Un atlas non autorisé ». C'est chez Chifflet et compagnie, une maison d'édition qui publie pas mal de livres marrants et justement aussi de parodies complètes de romans. Et les auteurs de cet atlas qui ont vraiment analysé les choses ont aussi cette particularité de faire aussi de la parodie en roman, par exemple. Et puis, l'autre aspect dont on va parler, c'est la désencyclopédie. Alors, vous pouvez tout de suite vous rendre sur votre ordinateur et regarder en cliquant sur votre moteur de recherche préféré, d'aller sur la désencyclopédie. Et c'est un Wikipédia parodique. Donc, voilà, forcément, c'est chacun propose. Mais, et puis derrière, on met un petit peu n'importe quoi. Mais c'est fait, vous verrez, toujours avec quand même du contenu et du lien. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est pas totalement sorti de rien, c'est qu'il y a quand même un peu de lien à ce qui est vrai.
Et avant de nous dire pourquoi tu as choisi ce sujet, qu'est-ce qui t'a donné envie d'acheter ce livre, justement, La France vue du sol? Et est-ce que tu consultes souvent le site internet donc, de ce Wikipédia parodique?
Alors en fait, la France vue du sol, je l'ai récupéré, enfin je l'ai acheté sur une fête du livre à Saint-Étienne, hein, à l'époque. Donc il est dédicacé en plus par...
Pourquoi à l'époque?
Il y a quelques temps quand même, ça fait quelques années. C'est pour ça que c'est pas une vraie nouveauté, mais c'était l'occasion d'en parler aujourd'hui. Ça fait quelques années que c'est sorti, puisque en fait c'est sorti au moment où on se posait la question de supprimer les départements et supprimer surtout le numéro des départements. Et donc c'est à ce moment-là que les auteurs ont eu l'idée de venir faire cet atlas et donc de présenter les départements d'une façon un petit peu originale, un petit peu différente.
Mais ça veut dire que tu le consultes de temps en temps, enfin, tu l'as lu et puis après
c'est un bon ouvrage de bibliothèque, et quand t'as des amis qui qui passent, qui jettent un œil, qui s'amusent de voir les départements dans lesquels ils ont travaillé, dans lesquels ils ont étudié. Et c'est vrai que c'est toujours sympa de se moquer un petit peu, de regarder aussi les départements voisins, parce que c'est là où aussi ça devient marrant avec tous les préjugés qu'il peut y avoir sur les départements par les autres.
Et tu consultes souvent le site
pour... Et alors là, des encyclopédies, c'était en cherchant la Lozère que je suis arrivé sur la désencyclopédie, et voilà, vous pouvez aller, on parlera un petit peu de ce qui se dit tout à l'heure, mais voilà, c'est marrant, et je consulte pas ça forcément très très souvent, mais voilà, c'est marrant, enfin voilà, ça peut être une façon aussi d'avoir un regard un petit peu différent sur un sujet parfois sérieux auquel on voudrait mettre un peu de choses drôles à côté.
D'accord, donc moi effectivement je vous confirme, hein, quand l'Atlas est arrivé, on a tous regardé nos départements. Certaines ont fait preuve de mauvaise foi, parce que je ne sais pas pourquoi on critique la Corrèze. Et donc, il faut savoir qu'Anne-Marie est corrézienne. Et donc,
non, on ne peut pas.
Je me suis dit la Corrèze.
Oh là, la Creuse.
Je suis creusoise.
Voilà. Mais il ne fallait pas non plus critiquer la Creuse.
La Corrèze de la limite.
Non, la Corrèze, c'est François Hollande, voilà. C'est Jacques Chirac.
Donc effectivement, parle-nous un peu de cet atlas. Nous, on a donc chacune été regardée. Donc moi, pas le bon département, visiblement. Mais bon, il y a toujours un petit temps, Aurélie, de décalage.
Bon, on arrête d'être méchant avec Aurélie. Voilà,
arrête de m'embêter. Hein.
Non, mais à la fin, je pense qu'on va pouvoir faire, tu sais, une petite émission carrément sur... Ouais.
Alors, en fait, donc effectivement, c'est un atlas. Donc, la base d'un atlas, c'est d'avoir des cartes. Hein, donc, il y a une carte par département. Alors, il y a certains départements où les auteurs avaient la flemme de faire une carte. Donc, ils ont recyclé une carte d'un autre département en gribouillant dessus. Enfin, on en parlera parce que c'est notamment le cas pour le Cantal qui a la même carte que l'Allier.
Ah, voilà. Il n'y a pas que moi qui bug.
Non, mais là, c'était une vraie volonté des auteurs de se moquer en disant voilà qu'il n'y a pas grand-chose. Rassurez-vous, la Lozère a une vraie carte. Donc, c'est
une. Donc, ça veut dire quelque chose.
Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose, même si sur la carte, il est dit qu'à peu près il y avait un désert, du vide, pas grand monde, personne, rien. Enfin bon, on en reparlera tout à l'heure. Après, il y a des petites rubriques. Il y a des photos avec des légendes fantastiques. Il y a des petits encarts historiques qui, je pense, pourraient poser problème dans la réalité totalement historique. Voilà, il y a quelques données statistiques, des anecdotes, voilà, du vrai, du faux. Mais toujours un lien quand même à quelque chose. Enfin, c'est-à-dire que le faux, il n'arrive pas totalement sorti de rien. Il est issu, par exemple sur la Lozère, de sa faible densité, ou il y a tout un, il y a une blague avec un jeune en photo. Sachant que voilà, le jeune, il a en photo, il a 55 ans, quoi. Hein, c'est...
Ah oui.
Voilà. Donc effectivement, bon, voilà, c'est toujours cet esprit-là.
Il y a peut-être des auditeurs qui nous écoutent, qui ont peut-être 55 ans. Oui, vous êtes jeune encore à 55 ans. Voilà. Faut pas les vexer.
Oui, c'est tout à fait, effectivement. Donc voilà, il y a du sérieux, il y a du comique, et c'est un regard critique où on force forcément le trait.
Et les auteurs ont fait comment pour écrire sur le livre ?
Alors, la meilleure façon de le raconter, c'est de lire, vous savez, le pitch de l'éditeur qui est sur la dernière de couve du bouquin, qui évoque un peu le making-of vu du côté de l'éditeur de tout ça. Alors, ça dit « Déguisé en moustachu débonnaire, en grand chauve lunaire ou en dandy de province, nos trois auteurs ont sillonné incognito, mais de fond en comble, les 100 départements de cette France qu'on dit profonde, après une année de travail pharaonique, 400 000 km parcourus, 30 000 communes explorées, 377 musées de la dentelle et du sabot visités, des tonnes de garbures, de choucroute, d'acras, de saucissons d'âne, de bouillabaisse et d'autres spécialités locales englouties. Le résultat est là, surprenant, désopilant, mais toujours criant de vérité, un ouvrage de référence, luxueusement illustré et trouvant sa place dans la bibliothèque de tous les Français, quelle que soit leur nationalité. Bon, voilà, là, l'éditeur se fait plaisir un peu à la fin, mais en fait, c'est...
Oui, parce que moi, je ne l'ai pas, personnellement, et toi, Aurélie ?
Non, moi non plus, mais voilà. je dois dire que ça m'a plu, quand même.
Mais ce qui est original dans ce bouquin, c'est que vraiment, on peut, je pense, difficilement faire le travail qui est fait sans être revenus. Et ils sont, alors, sans doute pas venus les trois sur tous les départements, Mais il y a eu un vrai travail de documentation et de terrain pour ajouter des choses un peu plus de vécu. Et c'est ça qui est quand même assez sympa.
Mais qu'est-ce que ça nous apporte, en fait, de lire ?
Ça nous apporte pas forcément grand chose. Ça nous apporte c'est des pastiches, quoi. Finalement, c'est ça qui est marrant, c'est que on est dans de la parodie. C'est divertissant.
Oui, c'est drôle. Ça force le trait.
Voilà, ça force le trait. Et puis ça s'applique. Bon, c'est vrai. Après, c'est sans doute aussi un peu une déformation professionnelle, hein, quelque chose qui est un territoire. Donc c'est forcément intéressant à regarder la façon dont aussi des gens s'en moquent un petit peu, et ça fait jamais de mal aussi de se moquer un peu de soi parfois.
Alors justement, on pourrait peut-être avoir un exemple, quoi. On pourrait peut-être parler de la Lozère, que tu nous expliques, parce que tu tournes autour, mais tu nous dis pas vraiment...
Alors la Lozère, vous avez un carré sur Mende, hein, forcément, qui a écrit... voilà, Mende, on voit que c'est la grande ville, hein, mais avec une petite légende qui dit pas grand monde.
Ok.
Bon, après, bon, évidemment, la Margerie, c'est entre vie des personnes... L'Aubrac a plutôt désert, rien et personne.
D'accord,
il y a au moins des vaches.
Ouais. Après, sur le Causse de Sauveterre, il y a une croix avec écrit randonneur signalé en 1972.
Ok.
Sur le Causse Méjean, il y a une croix aussi avec jeune signalé en 2002. voilà, et puis dans les Cévennes, il y a une petite croix avec la résidence secondaire de la Bête.
D'accord.
Voilà.
Alors justement, là, comme on vient de se faire plein d'amis dans toutes les régions de la Lozère, tu vas peut-être nous parler un peu des auteurs pour qu'ils aillent se plaindre directement.
Ah oui, parce que je ne fais que relier. Hein,
qu'ils aillent se plaindre directement.
Toi, tu n'y es pour rien.
Oui, je suis pour rien, voilà. Totalement. Simplement, je vous en parle parce que c'est important de le savoir. Donc, les auteurs, il y a Pascal Fioretto, qui est stéphanois, vous allez voir, certains sont mathématiciens, enfin voilà, donc il a fait un bac S, un bac littéraire, et puis il retourne à ses calculs, il s'inscrit en maths sup, il est ingénieur en chimie, il a fait ses études d'ailleurs à Montpellier, voilà, et il cultive sa graphomanie en fondant un journal étudiant, et puis après il s'installe dans cette logique des pastiches, et avec des magnifiques parodies de journaux, L'Aberration, Le Cafard Acharné, Pourri Moche, Voirie, Le Figagaro, Fientrevue. Voilà. Et donc, il est repéré par Marcel Gottlieb, et il intègre l'équipe de Fluide Glacial. Et donc, il lâche son travail qui était alimentaire pour donner justement cours à toutes ces égarements parodiques. Voilà, et puis avec l'encouragement d'Albert Algout, qui était à ce moment-là rédacteur en chef de Fluide Glacial, il se met à son compte, il publie sous son vrai nom, et il a publié un certain nombre de pastiches, L'élégance du maigrichon, le Gay Vinci Code, un certain nombre de choses différentes et variées. Voilà, après Bruno Léandri, c'est le deuxième écrivain et humoriste qui est plutôt lui aussi qui a été membre de Fluide Glacial, auteur de chroniques, de nouvelles et de bandes dessinées. Il a participé aussi au journal satirique Harakiri, et il est l'auteur de la grande encyclopédie du dérisoire. Voilà, et puis le dernier auteur, c'est Vincent Audiquet, qui est globalement un Parisien, hein, puisqu'il est né dans le 75, puis ensuite il a déménagé dans le 92, le 93 et le 94. Et qui lui a collaboré aussi à Fluide Glacial, et puis aussi sur Canal+, dans le 20h20 et dans Gros Landsat. Voilà, donc effectivement, des gens qui sont sur... Cette entrée très parodique.
Tu voulais nous donner un autre exemple ou pas, par exemple ?
Bah oui, on peut regarder aussi nos voisins, hein, parce que c'est ça qui est marrant. Alors il y a un petit côté radin qui est déjà affiché sur les Aveyronnais, puisque vous avez un encart qui dit carte en location. envoyer un chèque de 0,20 euros aux auteurs, et puis avec après un erratum qui compense ça, mais vous allez voir, il y est aussi sur le Cantal. C'est au moment où nous mettons sous presse, on nous signale que ce ne sont pas les Aveyronnais qui ont une réputation de radinerie inexplicable, mais les Cantaliens voisins. Les lecteurs ont rectifié de même, moyennant une petite souscription. Mais vous avez exactement le même erratum, bien sûr, pour les Cantaliens. Voilà. Après, bah, vous avez beaucoup de moutons en Aveyron, hein, sur la carte. Voilà, le viaduc de Millau, évidemment. Des troupeaux de viaducs sous la mer. Voilà, bon. Forcément, il y a toute l'histoire de José Bové et du McDo qui se retrouve là-dessus. Et le fond de carte devient un bout de Roquefort sur la partie concernée de tout ça. Voilà.
Et sur nos amis gardois ?
Ah non, nos amis gardois, je vais les retrouver. Hop, nos amis gardois, ben en fait, on a différentes choses. Alors, si on va du côté du Vigan, en Cévennes, on a une petite croix, comme tout à l'heure en Lozère, et c'est écrit ici, en 1954, un Cévenol à souris. Voilà, après, on parle de mine fermée, on parle de visage ouvert. Voilà, l'un à côté de l'autre, bien entendu. Voilà. Après, il y a le sud, vous savez, le Gard a une façade méridionale et sur la mer Méditerranée. Et là, c'est écrit bande littorale mesquine, parce que c'est vrai que il y a que le bout du gros du roi qui y est. Enfin voilà. Donc c'est bon. Voilà, c'est forcément très. C'est pas effectivement tu posais la question de à quoi ça sert pas forcément à grand chose, mais c'est une façon de se moquer un petit peu des choses de l'histoire, de tout ce qui peut se faire aussi dans les différentes régions. Et c'est vrai que, enfin, je l'ai déjà fait tourner à pas mal d'amis, etc. Bon, finalement, on connaît un petit peu la France dans ses différentes composantes, et on retrouve vraiment le travail de terrain et le fait que c'est pas sorti de nulle part, quoi.
D'accord. Et tu voulais aussi nous parler de la désencyclopédie, sur ce côté un petit peu décalé.
Eh ben oui, sur ce côté décalé, et en même temps avec justement les départements ou les régions, hein, puisque je vais commencer en vous parlant du Languedoc-Roussillon. Mais c'est effectivement une encyclopédie parodique sur la même mode que Wikipédia. Alors vous le retrouvez sur desencyclopédies.wikia.com, wikia.com. Et voilà, alors si c'est là aussi une façon de tirer le trait un petit peu avec un pinceau un peu gras pour dire, voilà, pour mettre en évidence certaines choses. Alors je vais juste vous lire le petit article sur le Languedoc-Roussillon. Le Languedoc-Roussillon est une région du sud de la France qui souffre beaucoup de la présence de l'Hérault et du Gard dans ses frontières. Cette région autrefois appelée Languedoc a été renommée suite à son rachat par Rudy Roussillon, le célèbre acrobate du cirque Pinder. Son rayonnement s'étend bien au-delà de ses frontières, et ce grâce à la langue hoc comme la couleur. C'est actuellement une langue très parlée dans le milieu des affaires et celui des routiers. Elle est en passe de devenir la langue la plus parlée au monde, y compris par de nombreux animaux comme les sternes et les nubuques par exemple. Voilà, bon, après, ils font la liste des départements cotisants pour l'indépendance du Languedoc-Roussillon, donc l'Aude, le Gard, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. Et ensuite, vous avez une petite phrase qui dit « Certains parlent d'un cinquième département au nord de cette région, la Lozère. On n'a cependant encore trouvé aucun habitant humain dans cette zone. » Voilà, heureusement, on est là quand même.
Voilà.
Voilà, donc après, bah forcément, on se moque de la Lozère, avec des superbes fausses citations, fausses devises. Mais voilà, par exemple, sur le climat, en Lozère, il y a deux saisons, l'hiver qui est là et l'hiver qui arrive. Bon, voilà, le temps qu'il fait aujourd'hui prouve qu'on en est bien loin.
Moi,
voilà.
J'ai bien aimé l'activité aussi de chasse au Doriforts.
Oui, eh ben oui, la chasse au Doriforts, ben c'est effectivement ces gardois qui ne viennent pas pour faire marcher les commerces, mais uniquement pour voler les champignons.
Ah, les fourbes.
Parce qu'ils sont incapables de trouver les leurs directement.
Ça, c'est quand même ancré dans les mentalités, hein. C'est pas que sur ce site internet, hein.
Mais bien sûr.
Comme quoi, il y a du vrai. Voilà. Moi, j'ai déjà entendu ça en Lozère.
Oui, moi, c'est pareil. Sûr. En arrivant, c'est oulala, les gardois, ils nous piquent nos champignons.
Mais voilà, voilà. Donc après, c'est toujours pareil. On est là dans de la parodie. Ça a pas du tout de. Enfin voilà, il faut pas le prendre au premier degré du tout. Enfin, et d'ailleurs, pour accéder aux articles de la désencyclopédie, il faut cliquer pour dire j'ai bien compris qu'on était sur un outil parodique et que le but c'est pas. Enfin voilà, c'est pas de diffuser de l'information. Voilà, après un vieux proverbe, enfin les deux vieux proverbes lausériens, peu importe la surface du pré, accélère, suivi en général de ce coup-ci, on s'y met. Voilà. Bon, après, sur la recette de la coupétade, qui est assez marrante, alors qu'ils appellent aussi étouffe chrétien ou échtoufadou, hein, en créole local, comme ils l'appellent. Donc voilà, avec 1 kg de pain rassis, 2 kg de sucre, 36 œufs, 2 litres de lait et 1 kg de pruneaux d'Agen. Voilà. Donc voilà, si on regarde après d'autres, peut-être un petit peu nos voisins, comme on l'a fait tout
oui,
à l'heure.
Oui, parce qu'il n'y a pas que la Lozère.
Ben oui, il faut quand même un peu taper sur les autres. Donc pour l'Aveyron, on va s'intéresser par exemple aux villes, la capitale Rodez, les sous-capitales, Millau et Villefranche-de-Rouergue, Nocelles et ses Tripoux, Condor et sa République libre, Marcillac et son Marcillac, Bruéjoul et son Marcillac, Layol et son Taureau, Roquefort et son Roquefort, Honnay-le-Château et son Château, Sévrac-le-Château avec, comme son nom l'indique, un nom, non pas un Sévrac, mais oui, un château, enfin ce qu'il en reste, Estaing et son Giscard, Requista et sa fête en bronze, etc. Voilà, donc il y a pas mal de choses. Alors si on va s'intéresser aussi à la culture aveyronnaise et à la cuisine. Alors là, il y a même une alerte sur l'article. Faites attention, touristes, ne t'y aventure pas. Le risque d'étouffement est réel avec la foisse. Voilà, pâtisserie culte, la foisse moderne tend à ressembler à une brioche. La vraie foisse, c'est comme une brioche en 10 fois plus dense. Accessoirement, la foisse sert de prétexte pour déboucher du vin blanc, car seuls les plus vieux aveyronnais sont capables de manger la foisse sèche. Voilà. Donc voilà, vous voyez le ton, c'est sympa, c'est une façon de se moquer un petit peu.
En fait, c'est comme pour Wikipédia, n'importe qui peut écrire un article.
Tout à fait. Mmh. Tu peux donc proposer un article dans les encyclopédies sur 48 FM. Voilà.
Mais donc il y a pas de filtre, il y a personne qui.
Bah, je pense qu'il y a un comité de lecture sur notamment le côté parodique et le fait que ça soit pas non plus des attaques personnelles ou des choses comme ça, mais. Voilà, c'est une façon un peu marrante alors de découvrir des choses.
Et voilà. Toi, ça te plairait d'écrire un article sur ce site ?
Bon, je vais pas forcément, je me sens pas forcément suffisamment drôle pour le
sur
faire.
Sur notre émission ?
Oui, bah non, mais là il y aurait tellement de choses à dire en termes de parodie.
Mais il peut déjà y avoir les phrases cultes, désolé. Hein,
la gastronomie aussi, gastronomie on l'a vu.
Locale.
Non mais voilà, j'avais envie de vous présenter quelque chose d'un peu léger, un peu frais, une façon de regarder les choses un peu différemment. Voilà.
D'accord, et qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter comme musique pour arranger tout ça ?
Je vais vous proposer d'écouter un morceau que j'ai entendu il y a quelques jours sur l'antenne de 48 FM. Je me suis dit, tiens, c'est vachement bien. Alors vous allez voir, c'est une reprise par Brigitte de Habanera.
L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser, et c'est bien en vain qu'on l'appelle s'il lui convient de refuser. L'oiseau que tu
elle et lui. Et nous revoilà pour cette troisième partie d'Actuel et lui. Actuel et lui, mais on va parler avec elle maintenant. Anne-Marie, qui va nous parler de sport et nous présenter des sports qui font le buzz, l'actualité du sport.
Oui, Guillaume. Alors, pour le plus grand plaisir de tous, les beaux jours sont de retour. Alors, c'est un petit peu comme le 1er janvier, nous avons tous des bonnes résolutions et parmi elles, se remettre au sport ou bien en faire un peu plus pour ceux qui pratiquent déjà une discipline. L'objectif...
Tout le monde.
Bon, pour ceux. Voilà. Peut-être qui après... des exceptions. Mais en tout cas, l'objectif, c'est d'afficher un corps svelte ou bien avoir une silhouette un petit peu mieux redessinée. C'est donc une chronique qui va vous faire transpirer. Alors, commençons ce petit tour d'horizon par les sports tendance. Cette année, place à l'effort effectué dans l'eau. Réservé avant aux personnes qui avaient besoin de rééducation, par exemple après une opération, ces sports aujourd'hui séduisent de plus en plus, principalement les femmes. Ces sports aquatiques musclent et drainent à merveille le corps, l'idéal pour se débarrasser de sa cellulite.
Effectivement, parmi tous ces sports, j'en ai découvert un qui s'appelle l'aquazumba. Tu nous en parles ?
Eh oui, alors la Zumba, tout le monde connaît. C'est une pratique sportive très physique avec des chorégraphies basées sur des musiques salsa, reggaeton, samba, cha-cha-cha, hip-hop. Après avoir fait un malheur dans les salles de sport, voilà que l'Aqua Zumba vient d'être créée. Le principe est très simple, vous l'aurez bien compris. Ce sont les mêmes chorégraphies que dans les salles de sport, sauf que là, tout se passe dans l'eau. L'ambiance de fête aide à supporter les efforts et on ressort de l'eau avec des cuisses et des fesses en béton. Alors le plus avec l'aquazumba, c'est donc un sport ludique, c'est un sport rythmé qui va vous faire dépenser un maximum de calories, qui va vous faire dépenser donc un maximum en vous tonifiant. Et le moins, c'est qu'on ne peut pas en faire partout.
Voilà. Oui, d'ailleurs, est-ce qu'on peut en faire en Lozère ?
Non.
Ah, bah voilà.
Mais on lance l'idée comme...
Oui, voilà, après
ça a l'air sympa, effectivement.
Qui a envie.
Bon alors, un autre sport aquatique.
Oui, alors continuons avec l'aquapalming. Alors c'est un mélange d'aquagym et de natation. L'aquapalming se pratique avec des petites palmes aux pieds. Dans un bassin, on effectue différentes séries de mouvements en musique. Ces exercices sollicitent la plupart des muscles, en particulier donc ceux des jambes, du dos et des abdominaux. Petit bonus, les mouvements de l'eau provoqués par les oscillations avec les palmes vont directement agir sur la peau pour lutter contre l'aspect peau d'orange. Et là, j'ai envie de dire qu'on n'a pas vraiment besoin de cours. C'est vrai qu'on peut en faire tout seul à la piscine. Ouais.
On peut faire le canard tout seul dans un coin de la piscine.
Je vais pas savoir ce que tu fais à la piscine.
Bah non, mais avec des palmes dans l'eau, ça fait un peu canard, quoi. Enfin...
Oui.
Et il y a un autre sport dont j'ai beaucoup entendu parler, parce que là, justement, on peut en faire amende, c'est l'aquabiking.
Oui, tout à fait. C'est vrai que l'aquabiking est très à la mode en ce moment. Et comme tu l'as dit, Aurélie, on peut en faire amende dans la piscine de l'hôtel du Pont-Roux. Donc, il y a des cours collectifs et des cours particuliers qui y sont d'ailleurs proposés. Alors, le principe, c'est toujours le même, vous l'aurez bien compris, c'est pédaler sur un vélo dans l'eau. C'est une activité conseillée aux femmes qui viennent d'accoucher. Et justement, il y a Myriam, c'est une jeune maman trentenaire qui m'a parlé de cette activité. Elle fait de l'aquabiking tous les mercredis pendant 45 minutes avec son prof. Ce qu'elle aime dans ce sport, eh bien, c'est l'enchaînement sans interruption de plusieurs exercices pour se muscler les abdos, les cuisses et même les bras. Alors je la cite, « Physiquement, ce sport affine la taille, on ressent le changement après quelques cours. » Et en plus, elle me disait qu'elle ne ressentait pas de courbatures après les séances. Donc, très satisfaite de cette pratique, Myriam va continuer sur cette lancée, même s'il faut quand même débourser 10 euros pour chaque séance d'aquabiking.
Ouais, c'est...
Ça te laisse rêveur ?
Ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu. Bon, donc, alors, de quoi tu nous parles d'autre comme sport
Donc, effectivement, je pourrais vous parler de ces sports, puisqu'il y a un choix qui est diversifié. Je pourrais vous en parler pendant de longues minutes, puisque, donc, comme je vous disais, il y a beaucoup de sports qui se pratiquent dans l'eau. Mais je pense qu'on va tous s'essouffler. Alors, en tout cas, sachez quand même qu'il existe l'aquapenching. C'est une version aquatique du body combat. Il y a aussi l'aquafitness, une pratique plus intense que l'aquagym. Également l'aquarunning, alors bien pour travailler les cuisses, les fesses, les abdos. Enfin, pour ceux qui veulent décompresser, ils peuvent faire de l'aquarelax, bercé par le silence et plongé dans une lumière tamisée. On se concentre sur sa respiration.
Ah oui, je crois que moi j'aime bien cette dernière proposition.
Allez, on se remet un petit coup de toutou. Mais c'est pas très relaxant, hein, finalement.
Non, mais ça donne la pêche.
C'est ça. C'est pour changer avec les deux musiques qu'on avait avant.
Bon, alors, ce que je vous propose désormais, c'est quand même de sortir de la tête de l'eau et de revenir sur le plancher des vaches. Et il n'y a pas que les sports aquatiques qui cartonnent. D'ailleurs, Aurélie, Guillaume, si je vous dis plateforme, ça vous parle un petit peu ?
Escarpins à plateforme, plateforme pétrolière ? Non,
là, on est loin. Non, là, on est loin du but.
Je pense qu'il s'agit de plateformes vibrantes.
Oui. Oh, alors là,
spécialiste.
Ouais.
J'ai pas testé, hein, pour autant. Hein,
là, mais... on sent que t'es au taquet, là. Alors, en fait, pour la petite histoire, les premières plateformes vibrantes sont apparues en Russie dans les années 1960. Elles étaient alors destinées à la remusculation des cosmonautes de retour de mission qui avaient donc perdu leur masse musculaire.
Mais comment ça marche?
Alors c'est tout simple et pourtant c'est. Enfin, je vous dis ça parce que j'en ai une. C'est vrai donc. Alors je vous explique. Donc la plateforme vibrante est un appareil de fitness qui ressemble à un step muni d'un guidon. Sauf qu'une fois l'appareil en route, la plateforme se met à vibrer. Il faut adopter certaines positions tout en maintenant l'équilibre. Et la plateforme vibrante en fait fait travailler le corps grâce à des contractions musculaires. Alors comme ça on a l'impression que c'est facile parce que oui on n'a rien à faire. Et pourtant il faut tenir ses positions et c'est pas toujours évident. Voilà, c'est vrai qu'on transpire quand même pas mal. Donc le plus avec la plateforme, c'est qu'on raffermit la silhouette grâce à 2 ou 3 séances par semaine de moins de 30 minutes. Et par ailleurs, sachez qu'il est aussi possible de prendre des cours de power plate à Mende dans un studio spécialisé donc dans le domaine du bien-être, de la minceur et du coaching situé sur le boulevard Henri Bourillon. Le moins avec cette pratique, pardon, si vous voulez acheter une machine, eh bien en fait ça coûte assez cher. Alors après tout dépend des marques, tout dépend aussi si elles sont perfectionnées ou pas, mais en tout cas ça vaut entre 200 et 2000 euros à peu près.
Ce que tu nous proposes aujourd'hui est un peu cher quand même.
Oui, mais bon après c'est concernant la plateforme, effectivement c'est un petit peu cher. Concernant, tu disais tout à l'heure les cours, oui 10 euros pour l'aquabiking. Maintenant encore une fois, si tu as envie de faire l'aquapalming, tu peux prendre des palmes et tu peux aller à la piscine
et faire le canard.
Et faire le canard, mais voilà. Aussi. Et là, c'est sur la terre ferme. La marche, ça, c'est un sport qui ne coûte rien du tout et qui fait surtout beaucoup de bien. La marche permet d'entretenir son cœur et lutte contre les maladies cardiovasculaires. De l'avis des médecins, il faut marcher chaque jour à raison de 10 000 pas pour en retirer un vrai bénéfice santé. Et je crois que toi, Aurélie, d'ailleurs, tu marches pas mal.
Et oui, moi, je suis une adepte. Je promène le chien, tout simplement. Du coup, je fais mon activité physique en même temps. Quand on fait d'un point à l'autre à Mende, on fait presque 5-6 kilomètres.
Ah, quand même. Hein.
Finalement, ça. Ouais, c'est pas
mais
mal.
Mais ça représente combien de kilomètres
les 10 000 pas ?
Les 10 000 pas.
Je pourrais pas te dire, d'autant plus que ça dépend aussi de ta taille, tout simplement. Peut-être qu'Aurélie va faire
des petits pas,
voilà, et toi des plus grands pas, ça dépend. Enfin voilà, c'est quand les médecins disent 10 000 pas, effectivement, c'est ça donne un certain, enfin une idée, c'est un ordre d'idée, voilà, pour chaque personne après.
Bon, après, on peut aussi faire du footing.
Oui, tout à fait, c'est un petit peu dans
pas
le même
pour
état
moi,
d'esprit.
Mais
oui. Non, t'es pas très footing non plus.
Non.
Pourtant, ça commence. On voit la préparation.
J'ai pas de chance.
Oui, effectivement. Non, mais moi, je viens tous les jours par la route du Marvejol-Mende et on commence à voir des gens qui.
Et tu fais ça à pied
bien
en
sûr,
voiture.
En voiture.
Tu leur fais coucou.
Bon, bizarrement, avec la chronique d'Aurélie sur le chocolat, ça faisait l'unanimité. Autant là, je fais un bide.
Non, c'est bien de faire du sport.
Donc en fait, le footing est le sport tendance de référence. En fait, il oxygène l'organisme, améliore la circulation sanguine et augmente les capacités du cœur et des poumons. Sur le long terme, il retarde le processus de vieillissement des muscles, augmente la densité osseuse, dynamise le système immunitaire et prévient les maladies artérielles. Et en plus, et c'est ça qui est bien, c'est qu'il favorise la perte de poids puisqu'en courant, on brûle des calories. Et puis, ne l'oublions pas, le footing galbe la silhouette. Tous les muscles sont sollicités, la nuque, le dos, les bras, les abdos, les fesses, les cuisses, les mollets, bref, tout le corps. Et d'ailleurs, le saviez-vous, courir, ça rend heureux. Le jogging défoule, atténue le stress, il provoque la sécrétion par l'organisme d'adrénaline et d'endorphine qui favorise le tonus, le plaisir et le bien-être, voire l'euphorie. Donc ça donne envie en tout cas de s'y remettre. Et pourquoi pas, comme tu le disais tout à l'heure, Guillaume, de participer au semi-marathon du Marvejolmande le 21 juillet prochain.
Oui, enfin, pour ceux qui ne veulent pas le faire en courant, je crois que maintenant,
il y a la marche.
On peut le faire en marche. Donc,
je crois que le départ est à 7h30 pour les marcheurs et à 9h pour les coureurs.
Voilà, tout à fait.
Voilà. Donc rendez-vous 21
sur
juillet
sur la ligne de départ.
Peut-être pour couvrir le Marvejolmande, mais et pas pour le courir.
Bon, et puis pour finir cette chronique sportive, je vous propose de revenir sur une étude révélée il y a quelques jours dans les médias. Une étude qui décrit la journée parfaite selon les Français. L'idéal, eh bien, ce serait de consacrer 106 minutes au sexe tous les jours. 106 minutes au sexe tous les jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça serait une façon plutôt agréable de brûler ses calories.
Ouais, une autre forme de sport.
Tout à fait.
Qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter pour justement accompagner
la
tout
séance
ce sport. Ah, oui. Non, tout le sport en général.
Alors, je suis sûre que vous avez dansé sur ce tube de l'été 2012. C'est une chanson interprétée par Michel Tello. Et donc, le titre, bon, qui est en brésilien, c'est Aí se eu te pego.
C'est parti.
Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que ela? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, queima. Sábado na balada, a galera começou a dançar. Comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Nossa,
nossa, assim você me mata.
Ai, se eu te pego,
ai, ai, se eu te pego.
Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Que delícia, hein?
tu,
elle
et lui. Et voilà, c'est déjà la fin de cette sixième émission d'Actuel et lui. Et oui, sixième émission où nous avons parlé de chocolat, des encyclopédies et d'Atlas, la France du sol, d'Atlas décalé. Et puis...
On a fait du sport.
On a fait du sport, ouais, enfin pas trop nous, hein, mais voilà. Voilà, on a surtout mais retenu les 106 minutes pour attester dans les prochaines semaines.
Donc cet après-midi, tu fais des œufs, voilà, tu décores des œufs et tu testes le sport de chambre.
Ça va être un petit peu compliqué hein, de faire ça dès cet après-midi, mais bon. Bon, on va aller, on va vous souhaiter donc de bien terminer cette journée. On retrouve dans 15 jours, bien sûr, pour une nouvelle émission. Cette émission est rediffusée mardi à 18h11, comme d'habitude. Vous pouvez la retrouver également sur 48fm.org. Voilà, on était content de passer ce midi avec vous, ou cette soirée, pour ceux qui nous écouteront en rediffusion. Hein, faut toujours avoir la faille spatio-temporelle, c'est important de le voir dans cette émission. C'est un gimmick interne, ne vous inquiétez pas. Voilà, merci et à très bientôt sur 48FM.
Ciao, ciao.
Au revoir, Guillaume.
Au revoir.
Et toi aussi. Hein.
Actu.
Elle.
Et lui.
Actu.
Actu.
Actu. Elle et lui.
Elle.
Lui.
D'actuel.
Et lui.